Il est 11h sur les ondes de Radio Plus et nous abordons le dernier tournant de cette partie consacrée à la lutte contre les discriminations dans le cadre de notre émission spéciale Plus de Fraternité qui a lieu, je vous le rappelle, jusqu'à 16h et vous restez bien évidemment avec nous sur les ondes de Radio Plus parce que dans quelques minutes, nous parlerons également échanges interculturels et intergénérationnels et Martine, à partir de 11h30, eh bien, nous parlera d'éco-citoyenneté et de développement durable. Mais nous étions en compagnie de Mohamed Erraes, membre fondateur de l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais et ancien mineur marocain, ainsi que de Sébastien Alberger, coordinateur de l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais. Et merci d'être resté avec nous. Alors, on va s'intéresser là plus particulièrement au fonctionnement de cette association. Et alors, on va recontextualiser un petit peu hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. La vague d'immigration des mineurs marocains, c'était particulièrement dans les années 60-70 jusque 77-78 à peu près, hein, Sébastien Alberger.
Les derniers arrivés que nous, les chiffres qu'on avance sont des chiffres vérifiés. Hein. Donc sur les dossiers...
Rappelez-nous l'année parce qu'on ne vous a pas entendu.
77.
Voilà, et d'ailleurs, Monsieur Erraes, vous êtes arrivé en 74, hein, oui. C'est bien ça. Oui. Alors, pourquoi avoir fondé cette association et puis depuis combien de temps existe-t-elle?
La MMN, c'est une vieille association hein, puisqu'elle est née en 1989 et elle est un bel exemple de ce que peut être l'éducation populaire puisque c'est une réponse des premiers concernés. Donc des mineurs marocains recrutés et avec tout ce même profil de ne pas savoir lire et écrire et parler le français. Pourquoi ? Parce que leur spécificité les amenait à ne pas trouver de services capables de les orienter, de les aider et de donner suffisamment de temps pour que ces personnes puissent accéder et faire valoir leurs droits. Donc au départ c'était des bénévoles qui allaient dans les mairies, qui avaient des salles à prêter, qui faisaient des petites permanences de bricolage comme ils pouvaient, c'était très dur. Et après ils ont décidé de franchir un palier en 89, ils ont acheté à plusieurs un petit local qu'ils ont réhabilité ensemble, qui était en triste état d'ailleurs. Et à partir de là, ils ont pu recevoir tous les jours de la semaine des familles. Il faut savoir que les familles étaient vraiment désemparées, hein, puisqu'on avait le paternalisme de la mine où on va les chercher, on les loge, on leur donne du travail, et finalement, tant que c'est ça, ben, ça va plutôt pas trop mal. Une fois qu'on se retrouve à Saint-Étienne, une fois qu'on veut faire valoir ses droits parce qu'on a un problème à la jambe, au dos, de la silicose, ça devient très compliqué pour eux par rapport au droit commun classique d'être reçu correctement. Donc j'accuse pas les institutions, mais si on est financé depuis 30 ans par les services de l'État, c'est qu'ils ont bien compris qu'on jouait un rôle fondamental dans l'échiquier, je dirais, de l'accès au droit, puisque grâce à notre travail, on pouvait préparer ces familles à arriver dans de meilleures conditions dans les institutions, je pense à la CAF, je pense... Donc il y avait un marchepied en plus qui était intéressant, et en plus on encourageait une dynamique citoyenne où les gens s'organisaient eux-mêmes. Donc voilà, 89.
Et ils continuent par ailleurs à vous soutenir alors que vous les attaquez en justice, ce qui est quand même plutôt une marque forte, parce qu'ils pourraient tout à fait aussi retourner un petit peu le processus contre vous.
Alors c'est le message qu'on donne aux jeunes, surtout des générations issues de l'immigration. On essaie de leur rappeler que leurs parents sont des héros. Ce qu'ils ont vécu, c'est assez inouï et force de respect et de courage. Mais à côté de ça, on n'essaye pas non plus de casser la France. On leur démontre qu'il y a aussi des mécanismes et des appareils qui permettent aux citoyens d'agir. Donc c'est un message d'espoir. Alors c'est vrai, hein, y a un paradoxe, c'est que Abdellah Samat, notre président, a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2009. Dans le même temps, le Conseil des Prud'hommes condamnait la NGDM pour discrimination et a dû indemniser ces mineurs marocains à hauteur de 40 000 euros. Donc vous imaginez le paradoxe, il est même sur quasiment la même année où on a à la fois l'État qui offre la plus haute distinction et en même temps qui décide d'aller en appel puis en cassation. Je pense que l'idée c'est quand même de faire un maximum d'économies au final.
Alors il y a ces combats sociaux que l'on a évoqués en première partie d'interview. Quels sont les combats qui restent à mener aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire finalement pour l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais?
Alors c'est important de comprendre déjà que jusqu'en 2009 l'AMMN c'est une poignée d'anciens mineurs marocains et de militants hein. On a des Français, on n'a pas que des Marocains. Et L'idée, c'est quand même de défendre tous les mineurs, mais on n'a pas non plus énormément de mineurs qui viennent en nous disant « je veux faire valoir mes droits, je veux me battre, l'AMMN, venez me soutenir ». Pour vous donner un exemple, le président qui avait reçu ce fameux courrier de la NGDM lui refusant un droit en raison de sa nationalité, a essayé de solliciter 150 familles. Il n'y en a que 9 qui l'ont suivi. Dans ces 9, ce sont tous des membres fondateurs. Donc vous voyez, on n'avait pas forcément gain de cause auprès de la communauté. On était même assez seuls. Ce qui a changé la donne, c'est la période 2009-2016 où il y a un collectif qui s'est créé. Pourquoi ? Parce que notamment les agents reconvertis qui sont arrivés à l'âge de la retraite très tard se sont aperçus qu'ils n'allaient pas être réattribués dans leurs droits. Donc ça, ça a été le premier mouvement de contestation en 2009 qui a mis en place une vraie dynamique collective. Pour aller vite, aujourd'hui on est en 2017, ce collectif est composé de près de 600 mineurs, dont 387 exactement je crois, ont un dossier en cours en justice. Sur des problèmes variés. C'est pas tous des problèmes aussi simples que la discrimination sur la question du droit au rachat. Mais la victoire en 2009 au Conseil des Prud'hommes, la médaille de la Légion d'honneur a donné de l'espoir aux familles et la parole s'est libérée. Donc je dirais entre 2009 et 2016, on accompagne un collectif aujourd'hui qui regroupe l'ensemble des problématiques liées au plan social. Donc on a les mineurs qui sont partis en reconversion, qui ont un problème bien spécifique en justice. On a les agents qui sont partis en retraite anticipée. Donc là, c'est un autre problème. Je peux vous donner un exemple. On a des mineurs qui ont vécu avec 380 euros pendant 17 ans. Je cherche encore aujourd'hui ce qu'est la retraite anticipée. Donc encore une fois, on voit bien qu'on n'a pas pris en compte la spécificité des gens. On avait des dispositifs, on les a parqués dedans. Sur un autre dispositif, on a ce qu'on appelle le congé charbonnier. Là, pour que le mineur pouvait se prétendre à ce contrat-là, on lui proposait gentiment d'aller changer sa date de naissance au Maroc. Donc actuellement, je suis 120 familles qui sont tous confrontées à ce problème de congé charbonnier. Il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est 80% d'entre eux ont pris entre 6 et 8 ans. Alors, l'employeur a encouragé ça, mais moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est au désavantage du salarié. C'est-à-dire que le salarié a pu gagner son droit d'être en France, mais il a gagné le droit d'être dans les minima sociaux et d'être dans la misère. Donc voilà, on arrive sur ces problèmes-là.
Martine ?
Alors, en fin de compte, bon, l'objectif, c'est de défendre, là, vous nous parlez un petit peu de cas par cas, mais il faudrait quand même que cela aboutisse à une loi pour tout le monde, c'est-à-dire un nouveau statut, une loi, et puis...
Je suis très impressionné. Ouais, c'est la seule vraie solution idéale.
Tout à fait.
Ça aurait été des modifications législatives. Mais il faut savoir que le plan social, il n'a pas été fait par des mineurs marocains. Il a été fait par des grands ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on estime que on a sollicité depuis 20 ans des ministres. Moi, j'ai sollicité encore Sarkozy, je crois, en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a des députés, des sénateurs qui connaissent notre cause et qui la soutiennent. Mais on n'a pas trouvé la recette pour créer une dynamique qui nous permette quand même d'aller devant ces décideurs et de proposer au moins une réparation, une modification législative. C'est pour ça qu'on est dans les tribunaux. Et le problème des tribunaux, c'est qu'en effet, on est au cas par cas. Et en plus de ça, ils ont signé, ou on leur a fait, ou on a signé à leur place des papiers. On a la prescription qui nous pose beaucoup de problèmes aussi. Je vais vous le dire tout simplement, ils se sont fait rouler. L'histoire des mineurs marocains, c'est une succession des luttes. 80, 81, 87, on peut aller en 2010, vous savez qu'en 2010, on a occupé la NGDM, 170 mineurs, ce qu'on appelle nous les Chibani, donc des anciens âgés de plus de 65 ans, ont dormi pendant 10 jours dans la NGDM, ils avaient monté une tente berbère. Et ben, vous savez quoi ? Grâce à ce mouvement social, on a réussi à réhabiliter 50 personnes dans leurs droits, dont M. RAS, qui a maintenant pu être réhabilité dans ses droits. Et pour la première fois, il y avait des Marocains qui étaient présents dans les négociations. Parce que ça, c'est une remarque aussi qui est intéressante. C'est que jusqu'en 2010, il n'y avait jamais un Marocain autour de la table pour parler des problèmes des Marocains. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans les tribunaux. L'idée, c'est quand même de faire valoir la décision de justice qui a eu lieu en 2013, dans ce jugement qui a été rendu définitif pour 10 anciens mineurs. Donc là aussi, ça a créé de l'envie. Les gens ont eu envie de aussi pouvoir aller en justice et dire « moi aussi, j'aurais voulu racheter mes avantages en nature, mais je n'ai pas eu le droit. » On voudrait faire ce qu'on appelle la jurisprudence.
Oui.
Le souci, c'est que, sachant pas lire, sachant pas écrire, le discours qu'on a souvent, c'est bah toi t'es marocain, t'as pas le droit. Donc les Marocains ne sont pas passés à l'écrit. C'était pas possible. Et la justice, on espère qu'un jour elle va le reconnaître, c'est que au vu des mécanismes qui ont été mis en place, je demandais au jour d'aujourd'hui qu'un mineur apporte la preuve écrite qu'en 2000 ou en 98, il ait fait une demande de rachat qui a été refusée. Le premier qui a su le faire, c'est un mineur marocain, chevalier de Légion d'honneur, grand militant, et on est en 2008. Pour vous donner en termes d'exemple par rapport aux capacités de chacun. Lui, il l'a entrepris en 2008. Et là, aujourd'hui, dans le combat en justice, c'est qu'on en a beaucoup qui perdent sur la question du droit de rachat, parce qu'on nous dit, mais ils n'ont pas apporté la preuve. Comment apporter la preuve alors qu'on nous a recrutés pour justement ne pas être capable de se défendre? Donc on espère qu'à terme, on arrivera à une réparation collective.
On voit donc qu'il y a encore beaucoup de combats à mener et votre association, donc l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, eh bien continue de se battre pour encore de nombreux combats. Sébastien Alberger, merci d'avoir répondu beaucoup à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinateur de cette association et que vous étiez accompagné de l'un des membres fondateurs et anciens mineurs marocains, Mohamed Erraes. Merci à vous, monsieur Erraes.
Merci.
La suite sur Radio Plus, eh bien c'est dans quelques instants et nous allons aborder le deuxième thème de cette journée consacrée aux échanges culturels et intergénérationnels. Jean-Philippe.
Oui, puisque le Secours catholique du Pas-de-Calais souhaite développer les parrainages de proximité, un système qui consiste à faire bénéficier des enfants, des jeunes, de tous horizons sociaux, de l'accompagnement de parrains plus âgés qui pourront leur faire découvrir des activités différentes de ce qu'ils connaissent. Les explications d'Anaëlle Gauthier, animatrice de la thématique Enfance-Famille du Secours catholique du Pas-de-Calais.
Du parrainage de proximité, c'est de permettre à un enfant d'élargir ses horizons, de rencontrer d'autres personnes. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ici, on en est convaincu aussi. Et on se dit que permettre à un enfant de découvrir d'autres choses, d'avoir d'autres pères, d'avoir d'autres cadres, ça peut que être bénéfique. Et puis, ça lui permet de bien grandir. On a besoin d'avoir des contacts, on a besoin d'avoir plusieurs personnes dans sa vie pour se construire, et donc avoir des parrains, des marraines, c'est dans cette idée-là.
C'est aussi l'idée un petit peu de sortir de l'isolement familial, plus ou moins ou...
Oui, c'est ça aussi en fait, c'est-à-dire que ça permet à l'enfant d'avoir d'autres pères, d'autres cadres, d'avoir d'autres adultes qui s'occupent de lui, qui l'accompagnent dans sa vie, dans le fait qu'il grandisse. Nous, on parle beaucoup, on fait la comparaison un peu avec une fleur et un tuteur, quoi. Donc finalement, c'est l'accompagner, le guider, l'aider à grandir. Et c'est vrai que des fois, quand c'est des familles qui sont recomposées, des familles qui sont monoparentales ou bien des familles qui sont unies, avoir un apport extérieur, ça peut que être enrichissant.
Alors, comment allez-vous sélectionner plutôt les parrains?
Comment on va rencontrer les parrains et cheminer avec eux sur notre projet, ça va être lors d'une rencontre comme ce soir ou comme il y aura le 5 mai, puisque la prochaine date c'est le 5 mai, je fais un peu de pub, donc ce sera à Béthune de 18h à 20h. Et donc en fait on se rencontre, on parle du projet, on discute, on apprend à se connaître tous ensemble. Donc ces rencontres sont faites pour les parrains et pour les enfants et pour les parents des enfants. On est tous ensemble, on parle du parrainage, on peaufine. C'est un projet qui est en constante évolution parce que il grandit avec les personnes qui le composent. C'est-à-dire qu'un tel a une idée, bah, il le propose, et puis tous ensemble on prend cette idée, on voit si c'est cohérent, si ça a du sens, si c'est dans le cadre du Secours catholique, et on y va. Et la sélection des parrains, c'est aussi, enfin, même si on n'aime pas trop le mot sélection, mais c'est aussi des personnes qui sont d'accord avec les valeurs du Secours catholique, qui sont d'accord pour s'engager dans la durée avec les enfants, et qui sont d'accord pour s'engager dans un cadre, parce qu'il y a quand même un cadre qui est sécurisant à la fois pour les parrains, pour les parents et pour les enfants. Donc il y a des démarches un peu administratives qui seront faites, type extrait de casier judiciaire, des choses comme ça, mais c'est tout à fait la norme et ça pose pas un problème. Et puis voilà, après on avance tous ensemble. On sait bien que dans le projet parrainage, il y a peut-être des personnes qui vont s'investir, qui devront arrêter. Bah, ça fait partie de la vie et on prendra pas ça comme un échec, hein. Tout ce qui aura été fait, ce sera positif.
Qui peut justement bénéficier de ces parrainages de proximité?
Alors, qui peut bénéficier du parrainage de proximité? J'ai envie de dire toutes les personnes, tous les enfants qui souhaitent être parrainés. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre des étiquettes sur des personnes en disant « Dans cette famille-là, il y a des carences, il faut absolument un parrain ». C'est pas ça du tout le projet du parrainage. Ça peut être... une famille monoparentale, une maman qui a besoin d'un accompagnement, d'une aide, qui a besoin de passer le relais, qui... Mais en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est que l'enfant, il soit acteur de ce projet-là et que lui, il ait envie d'être parrainé aussi. C'est-à-dire que si on a une dame qui vient nous dire, ou n'importe qui, je veux faire parrainer mon enfant, mais que l'enfant, il n'a pas du tout envie, on n'avancera pas avec cette famille-là sur ce projet-là, parce qu'on est bien sur un projet où on est acteur, il faut que ça se passe bien, et d'expérience, quand les enfants sont contraints, ça ne le fait pas. Par exemple, quand on a fait les immersions dans les autres délégations pour voir le fonctionnement des projets, on a rencontré une personne qui disait bah moi je viens pour parrainer un enfant. À la fin de la rencontre, il s'est dit bah finalement je vais faire parrainer mon enfant, et donc l'enfant avait lui aussi envie d'être parrainé parce qu'il s'était rendu compte que parmi les personnes qui étaient dans ce réseau là, il y avait des personnes qui étaient en capacité d'offrir quelque chose que lui pouvait pas offrir à son enfant. Donc ça montre bien que ça s'adresse à tout le monde en fait, et qu'il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas de milieu qui fait qu'on est à parrainer ou qu'on parraine en fait.
J'ai demandé à Annaëlle Gauthier combien de personnes travaillent actuellement sur ces parrainages de proximité au sein du Secours catholique du Pas-de-Calais.
Pour l'instant, on fonctionne avec un comité de pilotage composé de 5 bénévoles. Et en fait, tous les mois, on fait des rencontres et tous les mois, les effectifs grossissent. Hein. Ouais. C'est ce qu'on espère, et pour l'instant, ça se passe comme ça. Et quand on fait des rencontres, on a à peu près une dizaine. Donc là, vraiment, on fait un appel pour trouver des personnes qui souhaiteraient parrainer des enfants, des personnes qui voudraient aussi faire parrainer leurs enfants, mais il faut en parler en famille quand même, et dont les enfants voudraient être parrainés.
Et qu'ont donné les premières réunions pour l'instant ?
Les premières réunions, ça s'est très bien passé. Alors pour l'instant, on a du mal à trouver des enfants et des familles qui pourraient être parrainés, mais on désespère pas. Ce soir, on a une rencontre et on sait qu'il y a des enfants qui seront là. Donc après, c'est aussi un travail de communication qui nous attend et qu'on essaye de mettre en place là depuis 3-4 mois, parce que c'est un projet qui commence, donc on sait bien que les choses, elles débutent pas du jour au lendemain. Et sinon, à chaque fois, avec les personnes, on travaille sur... on fait toujours une animation pour se connaître, parce que comme il y a toujours des nouvelles personnes, du coup c'est important qu'elles se sentent accueillies par le groupe, et après on retravaille avec elles sur qu'est-ce que c'est que le parrainage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui avance et qui se construit avec les personnes, donc à chaque fois on retravaille sur qu'est-ce que c'est que le parrainage pour elles, pour vous, et puis comment on formalise les choses.
Un parrainage de proximité tel que vous le présentez aujourd'hui, ça peut durer combien de temps? C'est assez variable en fait.
C'est assez variable. Alors nous, ce qu'on souhaiterait vraiment profondément, c'est que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée, parce que ça permet vraiment d'en tirer tous les bénéfices. Après, si ça dure moins longtemps, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est pris est acquis, c'est toujours du positif. Pour ce qui est de l'engagement du parrain et de l'enfant et de la famille de l'enfant, ça, c'est des choses qui seront à déterminer entre les personnes qui sont concernées. Hein. Après, c'est en fonction des disponibilités de chacun. Une soirée, un week-end, un dimanche par mois, ça c'est vraiment aléatoire, quoi. En fait, au projet parrainage, il y a un cadre, mais on s'adapte tout le temps en fait, parce que ça dépend tellement des personnalités, des disponibilités de chacun, des envies, des attentes, qu'on peut pas se contenter d'un cadre strict et trop enfermant.
Écoutons à présent les bénévoles du Secours catholique parler de ce qui les séduit dans l'idée des parrainages de proximité. Tour à tour, Annie Martin, Blandine Courrouble, Francine Gilbert, qui est vice-présidente du Secours catholique du Pas-de-Calais, et Sandy Gradel.
Ce qui nous séduit, c'est l'idée d'offrir quelque chose à un enfant, lui offrir des moments différents dans la vie avec une autre famille, découvrir des choses, découvrir des lieux. Faire du sport, un autre sport que celui qu'il pratique avec sa famille, en fait, découvrir autre chose. C'est lui ouvrir les portes, en fait. Il faut lui ouvrir les portes vers les belles choses de la vie, en fait. Hein, c'est ce qu'il faut faire, je crois.
Moi, ce qui me séduit le plus, c'est le fait que ce parrainage, il englobe la famille, donc l'enfant n'en bénéficie pas seul, puisque pour ses parents, ça peut être un moment pour souffler, ça peut aussi leur apporter à eux-mêmes une ouverture, une amitié qui peut se lier entre le parrain et la famille, des échanges, donc l'élargissement à tout le monde.
Ben, pour moi, ce qui me séduit, ben, la même chose que mes deux amis, mais surtout, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est parce que j'ai fait partie des enfants qui ont été parrainés, et on va dire c'était en 54-56, donc c'est la preuve que le parrainage existait, mais ça ne s'appelait pas, certainement pas le parrainage, et j'en ai gardé de bons souvenirs. À l'époque, bon, il y avait des personnes qui venaient me chercher pour me sortir du contexte dans lequel je vivais, et malgré après, bah en 56, on est en 2016, hein, je me souviens encore toujours des moments passés, et ce qui ça m'a aidé à grandir. Et ça, jusque le temps que j'ai été parrainée, jusque 12 ans, quoi. Hein, donc de l'âge de 5 ans jusque 12 ans, bah, ces personnes m'ont aidé à grandir. Tout en n'abandonnant pas mes parents, hein, c'est pas ça, mais ça aide à grandir. Donc ça me séduit parce que je me dis, je vois beaucoup d'enfants maintenant qui ont besoin de voir autre chose. Pas qu'ils sont pas bien soignés chez eux, hein, c'est pas ça, mais on peut pas toujours, les familles, vu la situation actuelle, ils ne peuvent pas se permettre, des familles, ben, de les emmener dans les musées. Alors c'est important, ça construit un enfant quand on lui donne une ouverture vers l'art, vers le beau.
Donc pour moi, le parrainage permet aussi aux enfants de découvrir autre chose que ce que leur famille leur propose, mais aussi de permettre de grandir avec une personne qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils apprennent à découvrir aussi l'extérieur d'une autre manière qu'avec leur famille.
Alors quel est le rôle finalement de la famille d'origine dans ce parrainage? Comment ça se passe pour ces familles?
Bah, le lien, il est quand même assez important et précieux, hein. Ça se fait vraiment en étroite collaboration, avec beaucoup de bienveillance et de patience. Et y a des contacts forcément entre les parrains et les parents parce qu'ils se mettent d'accord sur les rendez-vous, sur des choses comme ça. Et puis, comme disait Blandine, c'est aussi une ouverture sur une amitié, sur voilà, sur de la discussion, sur des conseils, sur des choses. En fait, ils vont apprendre aussi à se découvrir, quoi. C'est deux milieux qui se découvrent, qui partagent des talents, des passions, et puis qui sont solidaires pour permettre à l'enfant de bien grandir.
Est-ce que vous avez des objectifs cette année en termes de nombre de parrainages ou pas du tout?
Alors, au Secours catholique, on a un dicton, une maxime, une règle d'or qui dit pas de quantitatif, uniquement des relations de qualité. Donc, on n'a pas d'objectif. Si on fait un parrainage et que ça se passe super bien, on sera davantage heureux que si on en fait 10 et que ce soit 10 projets qui fonctionnent pas. Donc, vraiment, notre règle d'or, c'est on avance peut-être à petits pas, doucement mais sûrement, mais vraiment dans le souhait que ça se passe au mieux pour les parrains, les enfants et les familles. Donc, voilà, pas d'objectif, mis à part que ça se passe bien.
Est-ce qu'il y a des partenaires autour de ce projet? Est-ce que vous avez des partenaires autour de ce projet?
Alors, en fait, c'est un projet qui est mené par le Secours catholique, et on communique auprès de nos partenaires pour les inviter à faire connaître ce projet. Donc, on a pour projet de rencontrer les maisons départementales de solidarité
NDS,
à Lillers et Béthune. Mmh. On a, enfin voilà, on essaye de communiquer auprès des autres associations, Croix-Rouge, Resto du Cœur, Secours Populaire, pour leur dire, voilà, les mairies, les CCAS, pour leur dire, voilà notre projet, s'il vous plaît, mettez une affiche quand vous rencontrez des gens, parlez-leur-en. Voilà, c'est important quand même.
Annaëlle Gauthier nous détaille enfin les autres actions du Secours catholique permettant de lutter contre l'isolement.
Alors, les actions pour lutter contre l'isolement, il y en a quand même pas mal. Donc, il y a des bénévoles qui font des visites à domicile pour des personnes qui peuvent plus se déplacer, qui sont trop éloignées. Il y a aussi des groupes conviviaux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui porte vraiment ses fruits et qui compte beaucoup pour les personnes qui participent, parce que c'est des lieux où on discute, on vient des fois raconter ses problèmes ou juste chercher une présence ou participer à une activité manuelle qu'on pourrait très bien faire chez soi. mais que finalement on a beaucoup de plaisir à le faire dans une salle où il y a d'autres dames avec qui on discute, on partage des talents, on s'entraide. Il y a des groupes un peu partout dans le Pas-de-Calais, et puis c'est des dames qui découvrent ensemble une activité manuelle, qui s'apprennent les unes les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez poignant à voir et qui est vraiment très présent. Et puis c'est des dames qui se donnent des conseils, qui s'écoutent. Des fois on entend une dame qui dit, bon bah voilà, je sors de chez moi, c'est la seule sortie de la semaine. Donc ça, c'est quand même une vraie réalité pour quand même beaucoup de personnes. Donc c'est leur seule sortie de la semaine, et puis du coup elles s'apprêtent un peu, elles sont contentes de revenir voir les copines, elles font du ramassage pour aller chercher les unes les autres. S'il y en a une qui vient pas, bah on appelle pour savoir comment ça va. Et ça, vraiment, d'expérience, je peux vous dire que c'est apprécié pour les personnes qui sont seules, parce que là, il y a une dame, la dernière fois, elle n'était pas là, et ben son seul appel de la semaine, c'est les dames du groupe convivial qui disent « Bah alors, Micheline, t'es pas venue, t'étais où ?» Et les personnes qui participent au groupe convivial, elles comptent pour les autres. Alors qu'elles comptent plus forcément pour leur famille, pour leurs voisins, pour elles ont plus forcément d'amis. Alors bon, je généralise pas, mais c'est des choses quand même qui arrivent. Et donc ça, c'est vraiment une action, je pense, importante et qui illustre bien la lutte contre l'isolement. Et après, il y a aussi tout ce qui peut être permanence d'accueil, des activités, des rencontres conviviales, des repas partagés.
Des repas partagés,
oui. Il y a aussi sur différentes équipes des tables ouvertes paroissiales. Donc ça se fait avec la paroisse. Et c'est une rencontre qui a lieu. Alors après, c'est en fonction des équipes, mais par exemple sur l'Artois, il y en a une, c'est tous les derniers dimanches du mois, des personnes qui sont seules. On sait que le dimanche, c'est une journée qui est un peu longue et qui est pas toujours facile à passer quand on vit seul et qu'on est dans un petit village. Donc ils se retrouvent, ils font à manger ensemble, et puis ils font des jeux de société, des choses comme ça. Et c'est un rendez-vous qui est vraiment très attendu par beaucoup de personnes. Donc ça existe ailleurs, hein, sur Saint-Paul-sur-Ternoise, du côté de Calais ou Boulogne, enfin c'est des choses qui existent et qui répondent vraiment à des attentes.
Et beaucoup de dames, donc.
Bah, je pense que je vais pas dire une bêtise si je dis qu'il y a majoritairement des dames, hein, quand même.
Il y a des hommes quand même. Il y a des hommes.
Il y a des hommes sur. Je veux pas forcément parler de l'Artois, mais à Arras, le lundi, c'est un groupe qui est mixte. Mais dans ce cas-là, ils font plutôt des jeux de société. Quand on invite des hommes pour tricoter, bon, ils sont
pourquoi
contents.
Pourquoi
pas. Ils sont contents. Ils boivent un café, mais ils se tournent plutôt sur des jeux de société. Alors nous, on est en réflexion un peu sur une sorte d'atelier bois où on referait des meubles, où on construirait des choses, mais bon, les hommes, c'est plutôt des activités jeux ou je sais pas si ça existe ailleurs, mais plutôt du manuel, mais de la création, du bois, des choses comme ça, quoi.
Alors, si on souhaite plus d'informations sur le parrainage de proximité, comment fait-on ?
Alors, si vous voulez plus d'informations sur le projet parrainage de proximité, on sera très heureuse de vous répondre au téléphone. Donc il faut pas hésiter à nous contacter. Alors vous pouvez contacter Evelyne. Je peux donner Evelyne. Allez. Donc Evelyne au 06 35 15 61 91. Vous pouvez contacter Blandine au 06 33 41 76 70. Ou Francine au 06 81 44 02 74. On répondra à toutes les questions, vous nous dérangerez jamais. Donc le 5 mai, on a notre prochaine réunion du réseau parrainage de proximité. Rendez-vous donc le vendredi 5 mai de 18h à 20h à la Maison des Associations 123 boulevard des États-Unis à Béthune. Tout le monde est le bienvenu, c'est l'occasion de nous rencontrer. On est quand même sympa, donc vous perdrez votre temps. Et puis voilà, de rencontrer les autres personnes du réseau, de passer un bon moment et puis d'en découvrir plus sur le parrainage.
Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Et voilà donc pour ce reportage autour du Secours catholique du Nord-Pas-de-Calais et de ses parrainages de proximité. Avec nous en studio, Guillaume Essen, responsable vie associative au sein de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Alors vous venez d'entendre effectivement ce reportage concernant cette initiative, et on voulait un petit peu savoir votre sentiment par rapport à cette initiative. Qu'en pensez-vous ?
Alors, plus développé. En effet...
Allez-y.
Oui, en fait, ce que je trouve pas mal dans l'idée d'intergénérationnel aussi, c'est que à la fois on a des personnes âgées qui vont faire profiter de leur expérience, qui vont parrainer, donc tout ce système d'ouverture aussi à différentes choses que pour les enfants. Mais ce qui est sympa aussi à voir, c'est que ça marche dans les deux sens, puisque même en étant une personne âgée, on peut continuer de s'ouvrir, de se tenir à la page entre guillemets. De la nouvelle génération aussi, puisque c'est l'intérêt des échanges intergénérationnels, c'est dans les deux sens. C'est pas de la personne âgée vers l'enfant, mais vraiment tout le monde apprend et continue d'apprendre tout au long de la vie.
Et j'ai pu le constater d'ailleurs tout à l'heure en enregistrant une interview que vous entendrez cet après-midi. Parfois, les personnes un peu plus âgées se mettent à parler comme les jeunes avec ces échanges intergénérationnels. Vous aurez l'occasion de découvrir ça, bien sûr, chers auditeurs et chères auditrices, tout à l'heure. Alors, au sein de la Ligue de l'enseignement, est-ce qu'il existe des dispositifs similaires à celui-ci ?
Alors, au sein de la Ligue de l'enseignement, non. Il existe, bien sûr, un dispositif qui s'appelle Lire et faire lire. Qui consiste pour des personnes de plus de 50 ans de réaliser des lectures de contes avec des enfants. Donc ça, c'est un dispositif en effet de la Ligue de l'enseignement. Après, plus largement, c'est des associations affiliées, même par exemple dans le cadre de cette semaine Fête la Fraternité. À titre d'exemple, bon, on a déjà tout le travail qui est fait par les centres sociaux qui réunit différents groupes d'âge, hein. On a par exemple ce qui se passe à Calais avec la maison de retraite La Roselière, où un groupe de jeunes est venu hier après-midi pour faire des jeux de société, le type d'action qui fonctionne assez bien autour du jeu. C'est détendu, tout le monde comprend et tout le monde s'amuse.
Eh bien, Guillaume Hessen, merci d'avoir répondu et réagi à ces témoignages. Vous restez bien sûr avec nous tout au long de la journée, puisque la Ligue de l'enseignement, je le rappelle, est partenaire de notre émission Plus de Fraternité, qui s'inscrit dans le cadre de cette semaine départementale Fête la Fraternité jusqu'au 25 mars. Et c'était d'ailleurs la fin de notre deuxième partie consacrée aux échanges interculturels et intergénérationnels. Et on va parler éco-citoyenneté et développement durable en compagnie de Martine sur les ondes de Radio Plus tout de suite. Fête de la Fraternité, c'est une semaine d'initiatives associatives pour lutter contre les discriminations et promouvoir le vivre ensemble sous toutes ses formes. Du 20 au 25 mars, dans tout le Pas-de-Calais, retrouvez de nombreuses actions qui rendent concrète la fraternité. Fête de la Fraternité avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Plus d'infos, www.laligue-npdc.org. Et soyez à l'écoute, votre radio vous propose une journée spéciale consacrée à l'événement le jeudi 23 mars dès 9h. Et rebonjour Martine.
Eh oui, bonjour à nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bon, par extension, le mot fraternité désigne un lien de solidarité qui fait que nous pouvons mieux vivre ensemble. Eh bien, mieux vivre ensemble, c'est bien sûr interpeller les consciences, mais aussi créer du lien social, partager les idées, susciter des engagements pour une société meilleure. Nous sommes tous nés sur la même planète et il faut donc que nous respections les uns les autres. Respecter nos modes de vie, mais respecter aussi nos lieux de vie, et cela passe forcément par le respect de notre environnement et l'éco-citoyenneté. Et en tant que citoyens, nous contribuons à donner un sens dans la société dans laquelle nous vivons, et l'éco-citoyenneté fait référence à l'écologie, car la citoyenneté s'exerce aussi vis-à-vis de l'environnement et de la nature. Nous avons tous des devoirs envers la planète sur laquelle nous vivons, car ces devoirs sont indispensables pour maintenir les ressources vitales de la Terre. Alors pensons aux autres en accomplissant des éco-gestes dans la vie de tous les jours. Alors Jean-Louis Wattet nous donnera quelques bonnes pratiques à accomplir et nous dira comment nous pouvons sensibiliser notre entourage aux éco-gestes. Jean-Louis nous expliquera pourquoi une certaine solidarité est indispensable pour maintenir l'équilibre de ce monde. La crise écologique et ses conséquences sociales rend la situation particulièrement inquiétante, et donc faisons en sorte que ce ne soit pas un détonateur. Ensuite, avec Sophie Cellier, chargée de communication à l'IUT de Béthune, nous verrons comment sensibiliser les jeunes et l'enjeu des déchets est pour Sylvie sans doute un moyen de favoriser leur éco-citoyenneté. Et puis nous nous rendrons à l'université de Béthune en tête de peloton pour les déplacements à vélo, ce qui explique le succès de l'association Cyclocampus, qui fait le pari de l'accès au vélo pour tous les étudiants et à des prix défiant toute concurrence. Un concept séduisant pour eux, bien sûr, et qui contribue à faire baisser le bilan carbone autour de l'université, ce qui, vous l'entendrez, réjouit Pierre Titelin, enseignant-chercheur. Alors la Ligue de l'enseignement mène toute une série d'actions culturelles ayant pour objectif entre autres l'amélioration du mieux vivre ensemble dans une société multiculturelle où la diversité doit être un atout. Alors c'est Martin Luther King qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Jean-Louis Ouetté, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, mieux vivre ensemble, un concept qui passe forcément par l'écologie, cette science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux, mais qui, depuis un certain nombre d'actions, désigne les interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. Alors Gandhi disait que nous devrions vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre. Une devise qui, Jean-Louis, dans ce contexte de fête, la fraternité, prend tout un sens et je suppose que vous pouvez l'étayer de quelques exemples.
Oui, tout à fait. Bon, je dirais d'abord que nous, c'est vrai que le mieux vivre, c'est un sujet qu'on connaît, puisque ça va faire cette année la 28e année qu'on organise le deuxième dimanche d'octobre le marché du mieux vivre. Donc derrière ce mieux vivre, ben, il y a la notion de, bien entendu, d'écologie, mais de fraternité. Donc ne pas séparer. De toute façon, les deux sont inséparables. Alors quand on parle de fraternité, on peut penser à fraternité avec les générations futures. Par exemple, j'essaye de ne pas acheter des produits qui abîment la planète, des lessives polluantes, des aliments qui nécessitent beaucoup d'engrais. Tout ça, c'est un problème de solidarité. Laisser une planète en bon état pour les générations futures, et malheureusement, on peut avoir des craintes. Et puis, la fraternité, c'est aussi avec les pays, les habitants actuels de la planète. Pensez par exemple aux petits producteurs des pays en voie de développement. Le geste simple, c'est d'acheter des produits du commerce équitable. Et donc là aussi, c'est un geste de fraternité.
Alors Jean-Louis, que répondez-vous à ceux qui croient que la défense de notre santé et notre environnement n'est pas de notre ressort ?
Notre santé, je pense que notre santé nous appartient et que donc la défense de notre santé, c'est quand même quelque chose qui relève des problèmes de fraternité. Et puis c'est quand même aux citoyens à prendre en main ces problèmes, à être informés, à être sensibilisés. C'est un travail qu'on mène depuis pas mal d'années et je crois que le lien entre santé et environnement sont très forts. Alors là, si on prend aussi l'environnement, c'est l'importance, c'est l'implication citoyenne, on en a déjà beaucoup parlé, et je crois que c'est bien notre ressort.
Alors justement, vous avez parlé de commerce équitable, etc., etc. Bon, mais à part, sortons un petit peu de la société de consommation, pourriez-vous proposer quelques gestes simples, responsables et efficaces qui puissent au quotidien contribuer au développement durable, voire soutenable de nos solutions pour les générations en cours et à venir, et éviter les conflits? Et justement, la première préoccupation ne devrait-elle pas être l'eau, par exemple?
Oui, mais c'est difficile de hiérarchiser. C'est vrai que l'eau est une préoccupation majeure, mais au même titre que les sols, que la biodiversité. Bon, des gestes simples, on en a déjà parlé, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est aussi un problème de solidarité. Alors, si on en revient à l'eau, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura assez d'eau pour tous sur la planète? Donc, économiser l'eau, faire attention à sa consommation d'eau, parce qu'il faut savoir que au niveau de l'eau, il est urgent de changer radicalement la façon de l'utiliser et de la partager. Les pays en voie de développement, on regarde un petit peu l'Ouest américain, certaines provinces de Chine, le Mexique, comment ça va se passer dans les 30 ans qui viennent, qu'il s'agisse d'extraire du charbon, du gaz, du pétrole ou d'irriguer du maïs et du colza, qui sont destinés à être transformés en agrocarburant, l'industrie va devoir composer avec une ressource qui va se raréfier. Dans plusieurs régions du globe, des nappes phréatiques ont vu leur niveau baisser ou leurs eaux devenir saumâtres. Donc faire attention aussi à ne pas polluer la nappe phréatique, parce que quand on pollue une nappe, ça n'arrive pas directement à la nappe phréatique. On sait qu'une pollution, elle met 30 ans pour arriver, mais qu'après les générations futures se retrouvent démunies États-Unis. C'est un petit peu ce qui se passe dans le bassin minier. Hein, dans le bassin minier, l'extraction du charbon, résultat, c'est que maintenant, il y a beaucoup de nappes qui sont polluées. Donc, on n'a pas fait assez attention à cette ressource qui est primordiale.
Donc on est bien d'accord, hein, Jean-Louis Watté, que les conflits environnementaux sont en croissance autour du monde, alors pour l'eau mais aussi pour l'extraction des ressources, comme vous venez de le dire, qui entraînent des coûts écologiques payés par des populations les plus marginalisées, les plus pauvres, on va dire, autochtones et femmes et enfants, pour la destruction des forêts, etc., etc. Là, on peut dire bonjour la fraternité.
Oui, tout à fait. Ben, on peut prendre un exemple. Hein. En août 2012, la sécheresse qui a sévi dans plus de la moitié des États-Unis a opposé des fermiers qui essayaient de préserver leurs ressources en eau, et puis les industriels du gaz de schiste qui, en fait, ne pouvaient pas réaliser des fracturations hydrauliques pour aller chercher le pétrole. Donc, il y a quand même un problème derrière ça, un problème de fraternité. Hein.
Alors Jean-Louis Watté, les scandales à répétition, comme par exemple l'empoisonnement d'habitants au plomb en Chine, ou alors les réacteurs, les stockages des déchets nucléaires, l'exploitation du gaz de schiste, ne sont-ils pas des freins à toute fraternité ?
Il y a certains effets environnementaux et sanitaires qui ont tendance à être sans limite, à la fois dans l'espace et dans le temps. Hein. On détruit comme ça la liberté de choix des générations futures en lançant des mécanismes dont il n'est pas prouvé qu'elles pourront le maîtriser. Bon, je pense en particulier au nucléaire, mais aussi et notamment à la gestion des déchets. Je pense à la pollution des nappes phréatiques. Hein. Quand on pollue une nappe phréatique, les générations futures sont complètement démunies pour justement lutter contre cette pollution. Je reviens sur l'exemple du bassin minier avec la pollution des nappes phréatiques. Donc on laisse une situation inquiétante aux générations futures. Et puis la marchandisation du monde, hein, qui est synonyme de transformation de l'argent en toute chose et puis toute chose en argent. Y a de plus en plus d'activités et d'éléments de l'environnement qui sont transformés en marchandises. Et donc, on est loin de la fraternité. Hein.
Bien sûr. Alors, le mieux vivre ensemble, Jean-Louis, ce n'est pas qu'un concept pour vous, hein, comme vous l'avez dit en introduction, parce qu'avec votre association, vous œuvrez dans ce sens avec, certes, des formations et une éducation à l'environnement, mais aussi en organisant des rencontres de personnes qui, a priori, s'opposent. Alors, vous insistez bien sur le fait qu'il doit y avoir échange et concertation. Et c'est justement ça, c'est le point de départ à une certaine fraternité, je crois. Alors, quand je dis échange et concertation, on va parler c'est un exemple. Hein. Vous avez procédé à des rencontres entre agriculteurs, chasseurs et écologistes.
Bah oui, tout à fait. Bon, actuellement, on est en train de mener un projet sur les pollinisateurs des bords de champs avec la Chambre d'agriculture, avec l'association Campagne Vivante, avec les agriculteurs. Donc, c'est un projet d'ailleurs qui a été récompensé, financé par la Fondation de France. Donc, il faut qu'on travaille avec tous les acteurs du territoire, parce que pour nous, l'homme est partie intégrante, hein, du système écologique, et la préservation de la biodiversité, elle doit être compatible avec les activités humaines. Donc c'est à nous de trouver des solutions pour combiner les champs pour la production agricole, les réseaux de haies pour protéger les sols et puis offrir un habitat et des voies de passage aux espèces, les zones d'habitation, des infrastructures de transport, des bassins versants, etc. Donc oui, il faut absolument que tout le monde se mette autour de la table et puis on mette en place des projets. Alors on le fait avec les agriculteurs, mais on le fait aussi avec des chasseurs. Je pense que notre mission, c'est avant tout sur le territoire d'être des médiateurs de nature, et ça veut dire que là derrière ça, il y a une notion de fraternité, puisque c'est le mot important qui prédomine.
Alors justement, à ce propos, il y a Jean-Philippe qui voudrait vous poser une question, Jean-Louis.
Bon, allez, j'écoute.
Oui, bonjour. Alors, bonjour Jean-Louis. Alors justement, je suis en train de retoucher ma question.
On parlait de chasseurs, d'écologistes et d'agriculteurs.
Oui, est-ce que justement, ce n'est pas un vœu pieux de réunir toutes ces personnes, agriculteurs, écologistes, chasseurs ?
Non, c'est pas un vœu pieux. Nous, on démontre justement que c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. Donc, on a des projets concrets sur 3 ans. C'est vraiment des actions et ça on modifie à partir de là. On va proposer des zones tests pour justement à terme modifier des pratiques. Et les pratiques sont déjà en train de se modifier. Bon, la même chose avec les chasseurs. Je pense que à partir du moment où on travaille ensemble, eh bien, on arrive à monter ensemble des projets et puis se respecter les uns les autres et on fait avancer l'environnement, on fait avancer la biodiversité. Donc, je crois que c'est des actions concrètes parce que bon, des grands discours, c'est vrai qu'on peut en faire, mais il faut monter des actions concrètes sur le terrain.
Tout à fait. Et comme je reprendrai toujours votre phrase qui m'a marqué lorsque j'ai fait votre connaissance, on fait 3 pas en avant et 2 en arrière, donc nous avons avancé d'un pas, n'est-ce
voilà,
pas ?
Voilà, ça c'est ma formule.
En tout cas, Jean-Louis Ouatté, je rappelle que vous êtes président de l'Étrême Nature, merci à vous. Dans quelques instants, nous parlerons de réduction de déchets avec Sophie Cellier, qui est communicante à l'IUT de Béthune. Elle est adjointe à la communication à l'IUT de Béthune. Et puis on parlera aussi, ça aussi ça vous branche, n'est-ce pas Jean-Louis, on parlera avec Pierre Titlin qui incite à utiliser le vélo comme moyen de transport. Alors Pierre Titlin est enseignant-chercheur à l'université d'Artois. Ouais. Et il a bâti un atelier de recyclage de vélos et réparation de vélos pour les jeunes.
Oui, j'ai rajouté, la pratique du vélo, c'est favorable au dialogue et aux échanges. Hein. On parle tout de même plus avec les autres cyclistes qu'avec les autres automobilistes quand on est en voiture, mais ça favorise aussi la fraternité avec les générations futures en raison de l'absence de pollution de l'air et de l'absence d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un bel exemple aussi de fraternité, d'écologie et fraternité.
Jean-Louis, merci.
Merci.
Et vous allez retourner dans votre jardin, je le sais.
Voilà.
Merci Jean-Louis, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Qu'il reste encore des ours et de l'eau dans les sources pour les cerfs et les biches. Des chemins buissonniers et de vieux châtaigniers où les oiseaux se nichent. Qu'il y ait des caribous, des renards et des loups cachés dans la nuit noire. Des forêts de légendes et des champs de lavande au fond de ta mémoire. Que tu apprennes à vivre dans la blancheur du givre ou les feux de broussailles. Et pas dans ces prisons qui n'ont pour horizon qu'un tissu de grisaille. Tu vois des pivers, de la neige en hiver et des matins bleutés. Des sapins de ton âge et des torrents d'images pourrir en liberté. Que tu puisses à ton tour te souvenir un jour d'une enfance au soleil. D'une odeur de jasmin, d'un poussin dans la main ou d'un essaim d'abeille. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. Qu'il reste sur la terre des hiboux solitaires et des merles moqueurs. Quelques vieux hérissons pour écrire des chansons qui chantent au fond du cœur. Tu vois de tes yeux des galets merveilleux jouer dans la lumière. Des ruisseaux de diamants et des saumons d'argent remonter les rivières. puisses à ton tour te souvenir un jour d'une enfance au soleil, d'une odeur de jasmin, d'un poussin dans la main ou d'un essaim d'abeilles. Que tu puisses à ton tour te souvenir un jour d'une caresse légère, d'une alouette affolée ou d'un baiser volé sur un lit de fougère. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. La musique, ce serait le battement du cœur des hommes à l'unisson un instant, la belle besogne. Paroles, elles sont faciles, regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles, elles sont faciles, regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles, elles sont faciles, regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Ce serait une chanson parfaite. De la planète, mettons.
Et c'était Alain Souchon sur les ondes de Radio Plus avec Bidon sur le 104.3. Plus de fraternité. Émission spéciale de Radio Plus le jeudi 23 mars de 9h à 16h. Au programme, débat, initiative associative avec de nombreux invités pour évoquer les thématiques de discrimination, d'intergénération, de développement durable, de démocratie participative ou encore de responsabilisation des jeunes. Une émission en public en direct des studios de Radio Plus, 6 rue Coué à Douvrin. Un rendez-vous en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement le jeudi 23 mars de 9h à 16h dans le cadre de la semaine Fête de la Fraternité. Plus d'infos, www.radioplus.fr et www.laligue-npdc.org. Et cette émission spéciale continue bien sûr dans quelques instants sur les ondes de Radio Plus. Nous nous retrouverons à partir de 12h toujours avec Martine et en compagnie cette fois-ci de Sophie Cellier, assistante de communication au sein de l'IUT de Béthune, un établissement dans lequel on parle beaucoup de développement durable et d'écologie solidaire. Et puis ensuite, eh bien, la thématique éco-citoyenneté et développement durable se poursuivra avec l'interview de Pierre Titelin, enseignant-chercheur au sein de l'IUT de Béthune. Et votre émission spéciale continue bien sûr jusque 16h sur les ondes de Radio Plus. À tout de suite.